La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux de Sabéen à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant : c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherche-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit.
Le prophète Ésaïe s'exclame au verset 15 de ce chapitre. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. N'avons-nous pas tous entendu et compris que Dieu se révèle, autrement dit, se montre, à travers la nature et la Bible notamment? D'ailleurs, vous l'avez entendu un peu plus loin, le prophète parle au nom de Dieu. Et c'est au verset 19 qu'il exprime les paroles de Dieu. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Il y a là une contradiction. Il se cache, et pourtant il ne parle pas dans une cachette, un lieu inaccessible, ténébreux, comme l'endroit où se trouvait Marc, quand on l'a finalement et heureusement trouvé. Il n'empêche que nous ne sommes pas loin d'être d'accord avec la première affirmation du prophète d'Israël. Qui nous rappelle que l'Éternel est un Dieu qui se cache, car oui, Dieu reste pour nous tous, malgré tout ce qu'on a pu en dire, un grand mystère, une énigme. Nous aimerions bien, n'est-ce pas, en savoir un peu plus sur lui, et comme Moïse autrefois, nous aimerions qu'il se montre à nous de manière plus évidente, afin de faire disparaître une fois pour toutes nos doutes et nos hésitations. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Pour les prophètes, il est clair que les idoles des nations sont des faux dieux, bien que parfaitement visibles, ceux-là. Alors que le vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, lui, se cache et demeure invisible. Je note également que les psalmistes regrettent justement que l'Éternel, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, soit un Dieu qui se cache. Prenez avec moi le psaume numéro 10. Verset 1. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Oui, pourquoi Dieu se cache-t-il au temps de la détresse de son peuple ? Vous avez aussi, dans le psaume 89, à partir du verset 47, une apostrophe similaire. Psaume 89, verset 47 et suivant. Psaume 89, verset 47 et suivant. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse ? Et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu ? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort ? Qui puisse sauver son âme du séjour des morts ? Alors, où es-tu, Seigneur ? Que fais-tu ? Pour l'être humain, pour toi, pour moi, il est difficile d'accepter cet état de fait. Il est très difficile d'admettre que mon Dieu, notre Dieu, soit un Dieu résolument caché. Un Dieu après lequel de nombreuses personnes crient « Mais où es-tu ? Où te caches-tu ? Que fais-tu ? Pourquoi ne dis-tu rien ?» Alors le comble, c'est que d'un côté il se cache, et de l'autre il nous demande de le chercher. Justement, dans le texte qui nous a été lu initialement par Emmeline, à la fin du passage, donc au verset 19 que je vais relire, le prophète dit ceci, Ésaïe 45, verset 19. Je n'ai pas parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Autre traduction possible, je n'ai pas dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi en vain. Pour rien. Ou je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi dans ce qui est vain, dans ce qui est vide. Les trois versions optent pour cette traduction-là, la Tob, la seconde 21, la parole de vie. J'aime bien ce que nous propose la Bible en français courant. Je n'ai pas recommandé aux enfants de Jacob, descendants de Jacob, de me chercher là où il n'y a rien. Donc Dieu demande à ce qu'on le cherche. Il appelle pour qu'on le trouve. Cela signifie que Dieu se trouve bien quelque part et il nous demande de bien le chercher afin de trouver où il se cache. Parce qu'il ne se cache pas aux confins de la terre. Il ne se cache pas là où il est impossible de le trouver. Enfin, continuons. Nombreux sont les versets de la Bible qui se font l'écho de la voix de Dieu. La voix de Dieu qui, depuis sa cachette, nous appelle. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Et puis, dans ce chapitre du prophète Ésaïe, encore lui, chapitre 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Cela ressemble fort à une partie de cache-cache avec Dieu. C'est d'ailleurs ce que suggère l'apôtre Paul dans le discours qu'il a prononcé à l'Aréopage d'Athènes. Je vous rappelle qu'il a dit, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul, habitent sur toute la surface de la terre. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, qu'ils le cherchent, et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. C'est la volonté de Dieu. Qu'on s'efforce de le trouver en tâtonnant. Donc d'un côté, il se cache, il se dérobe à nos regards, de l'autre côté, il nous demande de le trouver. Pas toujours facile de comprendre le Dieu que nous servons. Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà joué à cache-cache. C'est quand même une expérience assez intéressante, parce qu'il y a une tension dans le jeu. Va-t-il me trouver? Va-t-il pas me trouver? On essaye de trouver la meilleure cachette, pas la plus dangereuse, n'est-ce pas? Mais la meilleure. Je me souviens que fut un temps, je jouais beaucoup à ce jeu avec mon frère. Et justement, j'éprouvais le plus grand plaisir lorsqu'il ne me trouvait pas. Est-ce que c'est aussi le cas de Dieu? Apparemment non. Je me souviens une fois, je m'étais caché dans un meuble bas de la cuisine. Il était très improbable de mettre une personne dans ce meuble. En fait, il servait de fourre-tout. C'était le meuble qui faisait le coin. Vous savez, dans une cuisine, voilà, vous ouvrez les tiroirs, vous avez un meuble qui fait le coin. Et là, on pouvait soulever le couvercle. Et à l'intérieur, ma mère avait mis un tas d'affaires dont elle se servait très peu, donc elle utilisait pas très souvent ce meuble-là. Et moi, j'ai sorti quelques objets encombrants, et je me suis glissé au fond, j'étais là aussi dans le noir, j'ai refermé le couvercle. Et j'ai fait appeler mon frère, qui a cherché en vain pendant des heures. Et jamais l'entendre passer à côté, sans me trouver. Je me disais, ah, quelle bonne planque! C'est le but du jeu. Et après, on compte les points. Mais contrairement aux enfants, Dieu ne se cache pas pour le plaisir de se cacher et de nous jouer des tours. Ce serait puéril. Il n'est pas un esprit joueur ou un feu follet. Pourquoi donc se cache-t-il? Dans la Genèse, le premier livre de la Bible, on voit Adam et Ève se cacher parce qu'ils ont peur de la colère de Dieu. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils ont cherché la meilleure cachette qu'ils ont pu trouver là, au cœur de ce que je vais appeler une forêt, un jardin. De même, dans l'Apocalypse, les impénitents se cachent parce qu'ils ont peur de Dieu, peur de sa réaction, peur de sa colère. Chapitre 6, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les esclaves, les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et vous connaissez la suite, ils disaient aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Dieu se cacherait-il parce qu'il aurait peur des hommes? C'est insensé. Dieu n'a pas peur des hommes. Ce sont les hommes qui ont peur de Dieu. D'ailleurs, Dieu ne connaît pas la peur. La peur est la conséquence du péché. Oui, et Dieu est un être sans péché. De plus, Dieu est amour. Or, l'amour parfait, dit l'apôtre Jean, bannit, chasse la peur. 1 Jean 4, verset 18, si vous voulez noter. Dieu et la peur sont donc antinomiques, c'est-à-dire totalement incompatibles. Comme l'eau et l'huile. Alors pourquoi Dieu se cache-t-il? J'ai dit précédemment que Moïse s'est enhardi au point de demander à Dieu de lui montrer sa face. Parce que jusque-là, Dieu restait pour lui quelque peu mystérieux. Un Dieu caché. Un Dieu non pleinement révélé. c'est certain. Sinon, il n'aurait pas fait cette demande. Alors, je vous invite à relire ce passage extraordinaire avec moi, si vous voulez bien, dans le livre de l'Exode, au chapitre 33. C'est à partir du verset 18. Moïse, à la recherche de Dieu. Moïse qui demande à le voir, à le trouver. Pour qu'enfin Dieu puisse se montrer à lui. Moïse dit, Exode 33, 18, « Fais-moi voir ta gloire. » On peut comprendre par là, « Fais-moi voir ta face. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Mais il dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Voici donc un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque j'ôterai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Il n'a pas été donné à Moïse de voir la face de Dieu. Et pourtant... Pourtant, Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse conversait directement avec Dieu lui-même. Pour quelle raison la face glorieuse de Dieu ne peut-elle être vue par un mortel, fût-ce Moïse ? La réponse de Dieu est là, au verset 20. « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Ah ! Voilà donc pourquoi Dieu se cache. Parce qu'il ne peut se révéler à nous dans toute sa gloire sans nous tuer. La gloire du Dieu immortel est un feu destructeur pour les êtres pécheurs et mortels que nous sommes. Dieu ne se cache donc pas pour le plaisir de nous tourmenter ou parce qu'il a peur, mais parce qu'il nous aime. Oui, c'est parce qu'il nous aime qu'il se cache et qu'il se dérobe à nos regards scrutateurs. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. C'est écrié avec émerveillement, avec satisfaction, le prophète Ésaïe, pleinement conscient de la grandeur de cet amour de Dieu pour nous. En effet, c'est par la plume du prophète Ésaïe que Dieu a fait ses plus belles déclarations d'amour à Israël, son peuple bien-aimé. Ésaïe 43, verset 4, c'est écrit avant qu'ils ne disent « Tu es un Dieu qui te cache ». Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. Parole de vie. Ésaïe 43, verset 4. Un peu plus loin, au chapitre 54, verset 10, on en a fait un très beau chant. Je vous lis ce verset dans la parole de vie. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place. Mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureux ne bougera jamais. C'est donc parce qu'il nous aime intensément et durablement que Dieu se cache. Il se cache parce qu'il ne veut pas que nous mourions, il veut que nous restions en vie. Cette première conclusion entre en contradiction avec les appels répétés de Dieu à le trouver. Dieu se cache. Et de sa cachette, il nous appelle à le chercher. Non vainement, ou selon d'autres versions, non dans le vide, là où il n'est pas, mais en nous donnant la certitude que si nous le cherchons vraiment, nous le trouverons à coup sûr. C'est bien Dieu qui a déclaré « Vous me chercherez et vous me trouverez » si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et pourquoi souhaite-t-il tant que nous le trouvions ? Parce qu'il nous aime et qu'il veut nous faire vivre. Amos 5, verset 4, « Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. » Ah, Cherchez-moi et vous vivrez. Voici confus, perplexe, car empêtré dans un paradoxe, c'est-à-dire que nous sommes embarrassés par deux idées contradictoires. D'une part, Dieu se cache, ne veut pas se montrer à nous pour préserver notre vie, non parce qu'il y trouve un quelconque intérêt, mais parce qu'il nous aime de tout son cœur. D'autre part, de là où il est caché, de sa cachette, Dieu nous appelle à le trouver pour que nous ne mourions pas, mais que nous ayons la vie. Alors, que ferons-nous ? Ben, je crois qu'il faut absolument trouver où Dieu se cache. J'ai deux pistes. La première se trouve dans l'Ancien Testament, la seconde dans le Nouveau. Nous avons parlé de Moïse, qui souhaitait voir la face de Dieu et dont le souhait n'a pas été réalisé. Mais jusqu'où Dieu est-il allé dans sa relation avec le prophète d'Israël, le grand prophète Moïse ? Nombre 12 nous donne la réponse. Nombre 12, et c'est à partir du verset 6 que je lirai. C'est l'Éternel qui s'exprime depuis la colonne de nuée, où, on peut le dire, il est caché. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Certaines versions portent face à face. Je me révèle à lui sans énigme. Bon. Et il voit quoi ? Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous donc pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Il voit une représentation de l'Éternel. Le terme hébreu que Louis II a traduit par représentation est temouna, qui signifie proprement image, encore aujourd'hui dans l'hébreu moderne. Temouna, c'est l'image, ce qu'on voit à la télé, temouna. Parole de vie propose, il voit quelque chose de moi. Quelque chose de moi. Il ne voit pas tout, mais quelque chose. La Taub, rejoint par la version internationale anglaise, il voit la forme du Seigneur. Darby, qui est assez littéral dans sa traduction, il voit la ressemblance de l'Éternel. Pas mal. Il voit la ressemblance de l'Éternel. Et Sommer dit, propose, il voit l'Éternel de manière visible. Un peu plus audacieux. Il voit l'Éternel de manière visible. Et enfin, d'où l'intérêt là, de comparer les traductions, la Bible Osterwald, ma version préférée. Il contemple l'image de l'Éternel. Prenons maintenant la seconde piste, celle du Nouveau Testament. Comme nous l'avons vu, l'apôtre Paul a dit que Dieu a voulu que les hommes cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Et qu'a-t-il ajouté ? Qu'a-t-il ajouté ? Verset 27 du chapitre 17 des Actes que nous étudions en ce moment dans nos écoles du sabbat. Actes 17, versets 27 et 28. C'est là qu'il prononce, donc où sont rédigées ces phrases qu'il a prononcées. Il ajoute donc, Dieu a voulu que les hommes cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il nous met sur la piste. Il n'est pas loin de chacun de nous. Nous sommes des hommes. Dieu donc en se cachant s'est fait proche des hommes. Dans le prologue de son évangile, l'apôtre Jean déclare « La parole avec un grand P, celle qui est Dieu, est devenue un homme. » C'est ce qu'il dit. Et cet homme, c'est Jésus, qui porte également le nom d'Emmanuel, lequel signifie « Dieu parmi les hommes ». Moïse contemplait donc l'image de Dieu que l'apôtre Paul célèbre lorsqu'il dit, dans une de ses épîtres, Colossiens, chapitre 1er, le Fils, à savoir Jésus, est l'image du Dieu invisible. Ah, le Fils, c'est l'image du Dieu invisible. Le premier-né, c'est-à-dire le chef suprême et l'héritier de toute la création. Cette image divine révélée à Moïse, c'était donc le Christ préexistant qui se montrait à lui dans une forme, j'ai envie d'ajouter, humaine, compatible avec sa nature à lui. Et maintenant tout s'éclaire et se tient. Dieu a caché sa gloire en Jésus-Christ afin de se rendre proche de nous, nous les hommes, et de nous offrir sa vie éternelle. Parce que le Dieu éternel et immortel habite une lumière inaccessible que lui l'homme n'a vue ni ne peut voir. Mais il était en Christ. De Corinthiens 5, 19. J'ai envie d'ajouter caché en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. C'est en Jésus que vous découvrez le véritable visage de Dieu. Jésus est l'endroit, est la personne où Dieu se cache. Le caractère de Jésus n'est autre que le caractère de Dieu. Les sentiments, les décisions, les actes de Jésus sont en fait les sentiments, les décisions, les actes de Dieu, car Dieu est caché en lui. C'est pourquoi Jésus a pu dire sans hésitation, sans tergiverser, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Plus connu encore, « Celui qui m'a vu le Père. » Jean 14. Oui, Dieu s'est caché dans la personne historique de Jésus, l'homme qui a marqué le temps, l'homme qui a remis les compteurs à zéro. Dieu s'est caché dans un homme. De cette découverte, nous pouvons déduire au moins trois choses. Mais il y en a bien sûr d'autres, je vous laisse trouver. J'en retiens trois. Dieu ne méprise pas ce qui paraît petit et faible. Car qu'est-ce qu'un homme sur terre? C'est dans la faiblesse humaine que Dieu a manifesté sa force et dans la petitesse d'un fils de charpentier qu'il a révélé sa grandeur. Ne vous considérez pas comme trop petit aux yeux de Dieu. Ne vous considérez pas comme trop faible pour entrer dans les plans les plus extraordinaires de Dieu. Ça, c'est le premier point. Ensuite, Dieu nous comprend parfaitement. Mais parfaitement, il s'est caché dans un homme afin de pouvoir nous comprendre de l'intérieur et nous secourir dans nos faiblesses. Son empathie est telle qu'il est prêt à pardonner tous nos péchés et sans les compter, sans les compter, parce qu'il a vécu une vie d'homme. Il sait ce que peut éprouver un homme, il connaît les fatigues et les épreuves de l'homme. Et troisième point, quand nous avons l'impression désagréable et déprimante que Dieu nous cache sa face dans une maladie, à la suite d'un accident, d'une épreuve, une perte d'emploi, une situation de pauvreté, bien regardons à Jésus. Car c'est là que Dieu se trouve, dans son regard, dans ses paroles, dans son amour désintéressé, dans sa vie de renoncement et dans sa mort infâme. Mais libératrice, totalement libératrice. En Jésus, Dieu a caché sa gloire, cette gloire qui autrement nous aurait tués si elle n'avait pas été voilée. Et en Jésus, il nous invite à le trouver afin que nous ayons la vie éternelle. Alors, que dire? Passons plus de temps en compagnie de Jésus, étudions sa vie, imprégnons-nous de ses enseignements, vivons comme il a vécu, simplement, et d'abord pour les autres. Et nous trouverons Dieu, c'est certain. Une dernière chose. Celui qui a le Fils a la vie. Car Jésus a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Amen.